Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai. Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième
et
but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Et ouais.
Chute de Mélanquine juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain.
C'est le Shepard qui est parti. L'Express, l'Express, le TGV est parti. Shepard, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben oui, il est 12h30, vous êtes bien au Café des Sports en direct sur l'antenne de Principe Actif 102.4 FM ou principeactif.net. Bonjour Gonzalo.
Ça va, ça va.
Bonjour Damienski.
Hi.
Eh ben comme toutes les semaines, vous allez retrouver les résultats des sports locaux, plus ou moins on va dire, une large page rugby parce que c'est d'actualité, on est obligé de s'y mettre, hein. Désolé. Oh.
Obligé.
Ouais, obligé. On n'avait pas le choix. On nous l'a demandé avec crise et fracas. Et puis on retrouvera du sport local avec des entraîneurs de National 3, féminine et masculine, que ce soit Netreville et la Madeleine. Et puis on parlera avec eux aussi de l'Eurobasket. C'est de l'actualité avec, pour l'instant, une équipe de France qui gagne régulièrement, sauf peut-être un match allez, lâchement abandonné, dirons-nous, peut-être.
C'est un peu ça, ouais.
On en reparlera tout à l'heure, le tout orchestré de main de maître par Gonzalo. Et c'est parti.
He could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough. And then Bill got himself a wife. Now he leads a different life. Big Bad Bill is Sweet William now. Married life done changed him somehow. Now they all call him Sweet Papa Willie dear. Stronger than Samson, I declare. Till the brown-skinned woman's bobbed his hair. Big Bad Bill don't fight anymore. No, no, no. He's doing the dishes, mopping up that floor. Yes, he is. Barely used to go out drinking, looking for a fight. Now I gotta see that sweet woman every night. Big Bad Bill is Sweet William now.
Et bah, c'était quoi, Gonzalo?
C'était Van Halen.
Ah, voilà. Exact.
Étonnant.
Sérieux?
Étonnant, mais oui.
Van Halen.
Celui du jump.
C'est celui-là.
D'accord. On remerciera l'ami Boulkiès, c'est ça?
Exactement.
Et oui, Gonzalo manipule avec un doigté extrême.
La main gauche, toujours.
Les boutons de la table de mixage. Et bah, je crois que, justement, c'est à lui.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible.
À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Je crois qu'il est encore question de doigté sur ce générique. L'instant demeure curieux. Ouais, je vous le dis, moi. Intersaison. C'est sans doute le meilleur moment, d'ailleurs, de la saison. Le moment de tous les possibles. Une période assez difficile à encaisser physiquement, mais moralement, tout va bien. Je développe le physique. Le basketteur, la basketteuse, la volleyeuse, l'handballeur, sue à grosses gouttes. Ouais. Il court, il soulève de la fonte et s'astreigne à des exercices qu'il déteste. Parce que le sportif de salle n'aime que le ballon. C'est pas plus compliqué que ça. Il adore tripoter son joujou, son doudou. Le reste, bah, ça les barbe profondément. Le footing est assimilé à une punition. Et pourtant, les cycles fonciers sont devenus indispensables. Gna gna gna. D'ailleurs, Manu Fouché, lui, en prévoit même deux pendant la saison. C'est un vicieux, lui. Il aime arriver en play-off avec du gaz, quitte à se mettre en difficulté sur deux ou trois matchs en fin de saison régulière. Vous avez remarqué, j'ai pas cité le rugbyman. Parce que l'ovalien est une bête étrange. Déjà, il vit dehors. C'est pas pareil. Hein ? C'est un adorateur du cuir, mais courir ne le contraint pas. Cet été, il n'a pas ou peu coupé. En juillet, il gambadait sur le pré. Il réclame depuis des années de posséder un local pour soulever justement ces fameuses haltères et barres, pour faire en fait jouer les gros bras. Je vous l'ai dit, il n'est pas pareil. Alors pourquoi moralement tout va bien en septembre? Je vous le demande.
Pas de blessés peut-être?
Parce qu'on est tous copains. L'entraîneur explique, tente diverses expériences tactiques. Le groupe dans son entier est sollicité. Puis vient le temps des matchs amicaux. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai gaffé. On ne dit plus match amico, les amis. Mais on parle de rencontre préparatoire. On retrouve ainsi une notion de compétition que l'amical avait tendance à légèrement gommer. Match préparatoire, donc. Le coach partage le temps de jeu. Il commence à changer d'attitude, à devenir plus méchant. Rapidement, on devine les titulaires des remplaçants. Et là, ça commence à grogner, à coincer. Et les sourires s'amenuisent.
Et les larmes apparaissent.
Voilà, au fil de la compétition, une césure maligne se décide entre ceux qui jouent, ceux qui remplacent et malheureusement ceux qui banquettent. Et de l'autre côté de la barrière, qu'y a-t-il ? Le dictateur, l'entraîneur. Alors au fil des semaines, des mois, le discours évolue. Fin des prédictions globales. On ne parle plus de faire la meilleure des saisons possibles. Seuls demeurent les objectifs initiaux. Et là, c'est valable pour tous les sports. Je vais vous la faire rapidement.
Bon bah là nous c'est simple hein, on vise le maintien vu que l'effectif bon les problèmes tout ça les blessés là. Et compte tenu des brosoufs bah qu'on n'a pas bah nous c'est maintien. Mais on vise aussi qualification pour les playoffs parce que blablabla mais attention le championnat est dense hein, et en plus nos adversaires ils sont pas sympas, ils sont pas gentils, ils veulent nous battre.
Alors milieu de saison, plus de projection. Et là entraîneurs et joueurs deviennent des ébénistes accomplis. Ils nous sortent leur langue de bois. Exemple numéro 1 après une victoire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais comme signe?
Bah rien, non, j'écoute.
Exemple numéro 1 après une victoire.
Bon bah on s'emballe pas, de toute façon le championnat est encore long et de toute façon nous on prend match après match. Ah, moi je dis c'est super, ça c'est de l'analyse.
Exemple 2 après une défaite.
Bon bah elle n'est pas vraiment méritée. Alors là, je fais une pause.
Pause. Bon là, on perd, c'est souvent quand même, enfin quand même un peu à cause de l'arbitre. Parfois c'est quand même la faute de l'adversaire. Hein, qui est, il a été bon, puis voilà. Et c'est quand même rarement celle des joueurs locaux.
Donc je reprends. Bon, la défaite n'est pas vraiment méritée. D'ailleurs, on aurait mérité de faire mieux. Mais enfin, le championnat est encore long. Il faut se concentrer sur le prochain match.
Je savais pas que Gaston Lagaffe faisait du foot.
Mais enfin. Du fade, du sans odeur, du sans saveur. Et c'est pourquoi, alors attention, je vais vous révéler à tous un scoop. Un faux scoop d'ailleurs, un tuyau percé. C'est pourquoi la presse hébroïcienne adore Rémi Vallin et Manu Fouché. Parce que tout simplement, ces deux barbus appellent un chat un chat. Et dans cette société du politiquement correct, même ça, ça me fait mal à la bouche, et ben ça fait un bien fou. Voilà pour aujourd'hui.
Et ben on verra ce que ça va donner cette saison, comment nos coins-coins locaux traiteront nos sportifs locaux.
Handball.
Ça a joué, je crois, en championnat, ça a commencé, oui.
Voilà, handball, deuxième division. Première journée de championnat, Saint-Marcel, j'ai du mal avec les ceux aujourd'hui, pas de démocratie locale, Saint-Marcel-Vernon, Nancy, 28-24, une bonne rentrée pour Jérôme Dallaporte et sa chouette bande qui commence excellemment bien ce championnat, un plus 4 contre Nancy. Tanguy, on pense à toi. Football, CFA. C'est quand même, je rappelle, pour ceux qui s'y connaissent un peu, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent. Donc la CFA, c'est juste sous l'Euroleague, Champions League. C'est juste le niveau.
Quatrième niveau national.
Voilà, c'est ça. C'est juste sous la Champions League. Passy 1, Viry-Châtillon 1. Donc après 5 journées, j'ai regardé le coin-coin spécialisé, les Passéens sont classés 6e. Par contre, en aparté, on m'a glissé un petit tuyau. Il paraît-il que la joie de jouer et d'accueillir sont de retour du côté de Ménhi, ce qui est déjà une sacrée nouvelle. Voilà pour ma partie aujourd'hui.
Et oui, auditeurs, auditrices, vous pouvez réagir en direct via le site de Principe Actif sur principeactif.net et nous envoyer vos commentaires. Non, Gonzalo n'a jamais interviewé les joueurs de l'équipe de France de football, mais ils parlent très couramment leur langue de bois. Voilà, pour la question qui était posée. C'est quoi le prochain morceau ?
C'est un hommage à celui qui n'est plus avec nous. Il n'est pas mort, mais c'est un hommage à Bernardo.
Bah, c'était quoi ?
Motorhead.
Oula, il faut baisser ce petit tapis, monsieur.
Je pensais que vous alliez lancer un jingle.
Non, je vais le lancer après. Vous êtes toujours au Café des Sports sur Principe Actif. Pour vous faire plaisir, Gonzalo a mis un morceau pour les fans absolus de Bernardo.
Il en a beaucoup.
C'était le même horaire que l'an passé.
Nostalgie quand tu nous tiens.
Vous pourrez le retrouver de manière mensuelle, on vous le redit, dernier vendredi de chaque mois pour la tournée du patron, le Café des Sports, la tournée du patron, 18h30, 20h. Et d'ailleurs, nous allons vous solliciter. Vous allez les appeler sur Principe Actif au 02 32 62 57 32 et vous pourrez laisser vos questions. L'équipe du Café des Sports, acolytes, allez on va dire acolytes pour commencer, se feront un plaisir de répondre à vos questions concernant le sport en général.
Je pense que c'est une question de timing dans cette soirée.
Voilà. Oui.
Acolyte pour commencer.
Et voilà. Et donc voilà, Gonzalo, Raoul, Damien Ski à l'occasion, Bernardo et moi-même répondrons à vos questions. D'habitude, c'était des questions qu'on avait entre nous. On réagissait entre nous. Là, on vous invite à nous envoyer soit par mail sur le site principactif.net, soit sur le répondeur vos questions. Voilà, c'était on vous appelle, on fait un appel à vous.
Ouais, chouette projet, cher ami le taulier du Café des Sports, parce que c'est pas bête. On amènera peut-être nous des éléments, des arguments. On soulèvera peut-être d'autres questions. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher de nous et de proposer.
Voilà. C'est votre radio aussi, donc participez et posez-nous vos questions.
Avant tout même, c'est la vôtre.
Alors, je crois qu'on va changer de pays, de rubrique. Je crois que c'est le moment. Allez, jingle.
Chef.
Oui, et je crois que vous avez compris. On va parler évidemment de ce qui se passe en ce moment à l'autre bout du monde. Je parle évidemment de rugby avec ce week-end les premiers matchs de la Coupe du Monde. Nos invités viennent d'entrer, donc on va d'abord leur dire bonjour et puis leur donner un peu la parole. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors tu vois, as un micro devant toi, il faut parler dedans.
Voilà.
Tu vois, c'est super ça.
Alors, c'est du vrai direct, donc voilà, on va s'installer. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
On parle de rugby, on reviendra un peu sur
C'est con, je viens juste de tailler les entraîneurs, vous étiez pas là.
on commence à parler de rugby. Est-ce que vous avez suivi un peu ces débuts de Coupe du Monde dans vos agendas peut-être de préparation, de reprise aussi? On parlait de la reprise de la saison là pour tous les clubs locaux.
Ouais. Samedi matin, ouais, c'était devant l'écran. Japon.
Mieux que moi, j'ai pas regardé. C'est mieux que moi. Fabrice
Non, pas du tout.
Pas du tout, ouais. Alors, les premiers. Les bilans du premier tour des championnats, on va dire. Un coq enrhumé, une antilope boitouillante, un trèfle flétri, une rose fanée, un chardon peu ardent. Une fougère peu dense.
Ouais, mais un poireau turgescent.
Mais par contre, on va fort dans le poireau cette année, c'est la saison, je pense. Tout ça pour dire que les grosses nations, pour l'instant, excepté les frétillants kangourous australiens, sont passées un peu au travers de leur premier match, avec peu de certitude ou peu d'intention de jeu dévoilée dans toutes les nations.
Si on regarde l'Angleterre, c'est quand même super pauvre. L'Afrique du Sud, ça a pleuré. Et du combat et rien d'autre. Cela dit, nous, on a fait le contraire. Pas de combat et du jeu. Finalement, c'est pas très équilibré non plus.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle donne sur cette Coupe du Monde qui apparaît avec une compétition qui dure quand même 6 semaines, avec on essaye de pas dévoiler trop tôt ses intentions pour ne pas laisser le temps.
Ça fait 4 ans qu'on fait ça.
Voilà. Aux vilains adversaires de disséquer notre jeu à la vidéo et sortir les bonnes armes le jour approprié. Je sais pas.
Il y a vraiment qu'on fait plus fort. Il a laissé Wisniewski à la maison pour le sortir pour le quart de finale.
Ouais. Après, l'équipe de France, pour en parler un peu, il y a eu quelques prémices quand même pendant, on va dire, une demi-heure sur 80 minutes. T'en penses quoi? Qu'est-ce que toi tu as vu du match, vu que tu l'as vu, Damien?
Moi j'ai vu qu'une mi-temps parce que j'avais entraînement à 9h. Et ils ont bien commencé pour après un peu baisser du pied. Donc voilà, moi, un peu ce que je pense, même si je connais pas beaucoup, je m'y connais pas beaucoup en rugby.
On n'a pas de webcam, mais tu as laissé Damien rentrer avec le maillot qu'il a?
Et c'est pas grave, on va les battre en demi. En quart.
Ouais. Qui porte donc un maillot de l'Angleterre. Voilà.
Chef.
Il y a un auditeur de l'autre bout de l'Espagne. On l'avait reçu il y a l'année dernière avec Ben Nagy. O'Driscoll, à savoir, qui nous dit qu'il n'a pas vu de match en Espagne, c'est pas possible. Sur Internet. Donc voilà. Il écoute les résumés des matchs via. via le site.
Bah, faut qu'il trouve des sites internet, hein, le petit garçon, mais, Ryan, voilà. School.
Mais ouais, tu pourras peut-être lui donner 2-3 adresses de bar où aller, par contre.
Pas de problème.
Non, mais plus sérieusement, donc, cette équipe de France un peu moribonde, pour l'instant, alors, est-ce qu'il y a une équipe type? On n'en sait toujours rien. Pour le prochain match contre le Canada.
Turnover.
Turnover assez.
C'est voilà. Conséquent, ouais.
Alors, les quelques jours.
Est-ce que le problème, il est là?
Ouais, déjà,
moi, j'ai
qu'il y a
une question. Est-ce qu'il y a une âme dans cette équipe? Est-ce qu'il y a un patron sur le terrain? Bah, est-ce qu'il y a un capitaine qui capitanise?
Alors, le capitaine, c'est du sautoir sur le premier match. Il n'est pas reconduit pour le deuxième match. Donc, c'est Rougerie, qui n'a jamais été capitaine de l'équipe de France, qui devient capitaine.
Qui a joué, un quart d'heure quand même en fin de match.
Qui avait joué trois quarts centre et là qui se retrouve titulaire à l'aile. Donc, bon, même s'il a été formé pendant, qu'il a joué pendant 10 ans à l'aile, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a.
Et on rappelle, c'est Livremont qui a demandé à Van Cotter de le faire jouer au centre.
Donc voilà, est-ce que c'est. Après, il faut rappeler qu'il revient de blessure. Est-ce que c'est aussi pour lui redonner du temps de jeu en vue d'autres échéances? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Le seul qui.
Donc, non, mais en style de jeu, toi. Qu'est-ce que t'as pensé du style de jeu du jeu proposé, quoi.
Mais je l'ai dit, je n'ai pas vu le match.
Ah merde.
Il y avait un truc qui s'appelle une assemblée générale au rugby, parce que voilà.
Ouais. Ah, pour faire les kékos en photo, ouais. Voilà.
Donc il y avait un méchoui à faire cuire, donc. Non, où j'ai revu quasiment l'intégralité du match et j'ai cru que j'allais m'endormir. Pas d'alternance, approximation sur approximation. Peut-être la seule bonne nouvelle, c'est la blessure de Skrela. Au moins, on pourrait le renvoyer chez lui, à son cher papa qui est DTN, puis on nous renverrait un autre joueur, je ne sais pas qui à la place. Est-ce que le fameux Berbizier serait prêt à lâcher le fameux Wisniewski? Pourquoi pas? Voilà. Affaire à suivre, ça va être compliqué, mais voilà. Il y a une gestion qui, à mes yeux, est nouvelle sur cette Coupe du Monde.
McIntyre, il a joué combien de saisons à Castres? On peut pas l'amener là-bas, non?
Non, mais il y a des motifs de satisfaction quand même. Je pense que moi, qui n'ai pas une grosse connaissance du milieu, c'est un premier match de gros événements, donc Coupe du Monde. Ils étaient décriés. Alors, j'attends des retours, hein, Gonzalo. Ils étaient décriés, ils ont proposé un petit peu de jeu, ils se sont fait bouffer par contre pendant un quart d'heure, ça c'est inquiétant durant la seconde mi-temps, mais à un moment donné il fallait bien peut-être que l'équipe adverse ait un temps fort. Donc, et ce n'était que le Japon dans le milieu du rugby, je crois que c'est quand même pas le haut du gratin et du chapeau, mais bon, il y a quand même eu des motifs de satisfaction dans le sens où aussi quand on voit les autres grandes équipes du rugby, bon, ils n'ont pas super bien réussi leur première rencontre, donc est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je suis pas sûr, quoi.
Attends, on va poser la question, on a deux entraîneurs, M. Lefrançois, M. Lanoré, qui actuellement sont en préparation. Si vos gars foirent le premier match, vous allez dire quoi? Ah bah ouais, on sera prêt au deuxième. Enfin, je sais pas. Comment vous voyez premier match? Non, mais comment vous voyez un premier match d'une compétition? Non, mais on enchaîne. Qu'est-ce que tu vois sur un premier match de compétition?
Bah déjà, c'est une compétition particulière parce que ça, c'est voilà, c'est mondial quand même. Donc il y a le stress à gérer. Il y a le fait également que ce ne sont pas des garçons qui sont habitués à être ensemble. Quoique là, ils ont fait quoi, un mois et demi, deux mois de prépa,
ouais,
peut-être.
Ouais, un mois et demi, deux matchs amicaux. Voilà, avec deux fois deux équipes différentes, donc c'est vrai qu'il y a quand même
quelque chose assez neuf. Et puis par rapport à un événement de cette taille-là, l'entrée en matière est toujours un peu compliquée. Alors soit effectivement on se rassure tout de suite sur les premières actions de jeu, bien que je connaisse pas grand-chose de rugby, mais voilà, généralement dans le sport en généralité c'est ça. Soit on rate un peu l'entrée et puis dans ce cas-là, bah faut essayer de reprendre confiance, reprendre du rythme et voilà, donc c'est là que ça devient compliqué.
Comment tu vois ça, toi, Damien, un premier match d'une compétition?
Comme Fabrice, on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'Eurobasket. La France a très très mal démarré son premier match. Donc c'est toujours difficile un premier match dans une compétition. Donc faut pas trop se jauger dessus et rebondir sur le match.
C'est très bien, et c'est surtout que tu as conditionné un peu nos invités, hein, parce que tu as demandé comment ils avaient perçu ce match foiré par l'équipe de France. Moi, je pense pas qu'il soit foiré, ce match de l'équipe de France, déjà, premièrement. Je pense qu'il y a vraiment des... Brandon en parlera mieux que moi. Il y a quand même des choses positives. Ils ont survenir. Il y a des équipes qui auraient pu complètement baisser les bras avec une furia japonaise. Attends, hein, c'est pas des kamikazes pour rien, hein, nos amis nippons. C'est pas qu'une légende. Je pense qu'ils auraient pu vraiment baisser les bras. Et bon, quand même, ils ont eu un peu des ressources mentales et morales. Non, je pense pas qu'ils aient foiré cette rencontre. Elle est loin d'être parfaite, mais ils n'ont pas foiré, selon moi.
Alors, c'est, le contexte n'est pas complètement comparable, mais il faut se souvenir qu'il y a 4 ans en France, on avait quand même perdu le match d'ouverture chez nous,
ouais, Argentine,
contre les Argentins. Ouais, on est quand même des, il y a 8 ans, on avait failli perdre contre les Fidji en ouverture. Ça avait été une catastrophe pas possible. Voilà. Au moins, déjà, c'est gagné.
Oui, ça, c'est bien vu de...
Le seul problème, c'est que pour rebondir sur les propos de Fabrice, un début de match, on essaye de se rassurer. Le problème, c'est que je vois pas de certitude dans notre jeu, à part la mêlée.
Mais évidemment, en face,
t'as des judokas. Donc, c'est assez, le problème, c'est que dans l'animation offensive, c'est pas excellent. Avec la fatigue, on a vu qu'on avait une défense digne. Je pense qu'on a échangé l'anglais Webb Ellis contre Gerd Müller, un entraîneur suisse, parce que ça a été opération porte ouverte pendant quand même 20 minutes. Ce qui avait été la marque de fabrique de quelqu'un dont on va parler maintenant. On va continuer à parler de rugby, mais allez, petite polémique pour clore cette page rugby.
Dominez, record, il fait le passe à 3 balles. Dominguez.
Ah, je l'avais pas faite cette saison.
Le retour des scratchs.
Dominguez, trop de il fait le passe. À 3 balles, Dominguez, il prend le ballon, il se retourne, pied gauche, il tape. On est capable de le presser là. Merde. On se prend pour qui?
Vous coachez comme ça dans le vestiaire?
Ça dépend de l'humeur.
C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question.
Ouais, ça arrive à la mi-temps des fois de monter dans les tours.
Bien sûr.
Ça arrive aussi, ouais.
Et avec des filles, c'est aussi facile qu'avec des garçons?
Non. Faut avoir un peu plus de psychologie avec les filles. C'est pas facile.
Donc Fabrice Lefrançois a moins de psychologie que Damien Lanoé.
Non, ça je dis pas ça. Je dis pas ça.
Je note. Hein.
Alors voilà. Eh ben, on va parler.
Vous l'avez reconnu, monsieur avec des lunettes, là.
Bernard Laporte.
Voilà.
Alors, on en avait parlé la semaine dernière avec le départ de Philippe Saint-André, PSA. Vers des cieux plus
tranquilles. Au moins pendant 2 ans.
Voilà. Il est parti au Qatar.
Il est parti à la Fédération Française pendant 2 ans tranquille.
Donc on avait annoncé peut-être Eric Chant. Au final, c'est Laporte qui sort du chapeau.
Alors qu'il s'était insulté, il y avait menace de diffamation au mois de juin entre Boudjelal et Laporte.
Non, mais c'est un choc que Laporte, entre-temps, alors on revient à l'équipe de France quand même. Ex-entraîneur de l'équipe de France et sa marque de fabrique quand même pendant ses 8 années de règne, ça a été la défense qu'il a mise en place avec, on va dire, comme joueur qui a symbolisé pour moi ça, Betsen, l'opération Destroyer, Black Destroyer comme le surnom maintenant du sautoir, sur Wilkinson pendant quelques tournois destination où le pauvre Wilkinson y avait laissé quelques côtelettes. Côtelettes qu'il avait peut-être égarées ce week-end pour beauté parce que pour la première fois, il est passé au travers sur une Coupe du Monde. 2 sur 8, je crois, la stat.
Ouais, parce que cela dit, son compère en face fait pire.
Donc. Ouais. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, Laporte qui arrive à Toulon après avoir été annoncé un temps à Bayonne, puis un temps au Stade Français. Et ben non, au final, je vais chez le Roi du Soleil. Et ça sera un bon personnage de BD quand même, Laporte. Non?
Oui, notamment avec les casinos, tout ça, on peut faire.
Moi, je dis de série B, moi, mais.
Concurrent de Super Connard ou un truc comme ça.
Non, mais.
Attention, tu dis ça de la ministre.
Vous croyez possible cette saison une entente Laporte sur la saison entière et un avenir à Toulon entre Laporte et Boudjelal?
S'il gagne, il n'y a aucun problème. S'il gagne, il n'y a aucun problème.
Ah, j'imagine absolument pas au niveau
Boudjelal, du caractère. Boudjelal, un président, ça marche à la victoire.
Bien sûr.
Vous en pensez, messieurs?
Je crois pas.
Tu crois que ça peut clasher
les... Je pense que ça peut retarder, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, s'il n'y a pas d'entente, déjà ça se sentira, ne serait-ce que par rapport aux joueurs. Donc voilà, moi je pense que s'il y a des ententes, enfin, mauvaises ententes entre le président et le coach, ça se sentira à un moment donné.
Damien ?
C'est pareil.
Pareil ?
Ouais.
Pareil.
T'as pas trop de soucis avec ton président ?
Non, ça va.
On sait pas ça.
Au final, ton président, à toi Fabrice, c'est lequel ? Je suis perdu moi. C'est François Bonnard ou Monsieur Rostol?
On va dire les deux.
Les deux.
Et
au bar, il y en a un qui est meilleur que l'autre.
On dira pas qui.
Allez, on close cette page rugby et puis on se retrouve après pour une très large page basket. On parlera évidemment de la LM et de Netreville avec les équipes de N3. Et puis on parlera aussi de l'Eurobasket avec ce quart de finale annoncé dantesque contre les Grecs. Affaire à suivre, on aura leurs pronostics. Je crois que c'est le morceau un peu long. Hein.
Non, pas. Ah, on n'a pas le temps.
Non, tu veux pas. Bon, bah d'accord. C'est mieux pour ta santé.
Exactement.
Allez, musique. Eh ben, il est 13h, vous êtes toujours au Café des Sports sur Principe Actif, 102.4 FM, principeactif.net. On va pas parler NBA aujourd'hui, mais on va quand même mettre le jingle, je sais que ça fera plaisir à Damienski, il est à nos côtés. Merci.
Ça va faire plaisir aussi à nous inviter normalement.
Voilà, ça devrait leur rappeler quelques souvenirs.
C'est quoi ?
Présentation des équipes Chicago Bulls.
Et elle aimait vos baskets. Ah, c'est vrai que je savais pas ça, tiens. Eh ben si. Ah ouais. Eh oui. Ah, je savais pas. Ah, c'est toujours une musique qui donne des frissons. Alors on l'utilise partout.
Allez donc, eh ben oui, au Café des Sports avec Fabrice Lefrançois et Damien Lanoë, respectivement entraîneurs des équipes de National 3 masculine et féminine d'Evreux
et du centre de formation.
Et voilà. Et pour les garçons. Voilà. Alors on va. On va peut-être commencer avec Damien.
On aura fini.
Allez, petite présentation rapidement au club, le club depuis quand, et puis ton parcours individuel que nos auditeurs aussi, on est là pour parler un peu de vous et puis de ce que vous faites.
Donc moi j'ai 23 ans, je suis au club depuis 4 ans, j'ai coaché des jeunes et c'est la première année que j'ai des seniors. Sinon, en tant que joueur, j'ai joué pendant 12 ans à l'LM, sous les ordres de Bruno Chatiron.
Allez, c'est un monomaniaque, un seul entraîneur.
Un seul entraîneur, voilà. Et c'est toujours le même maintenant à Netreville.
Et c'est le parrain de ses deux enfants, c'est ça ?
Pas encore, peut-être pas. Sinon, j'ai fait championnat de France minime, cadet, National 3, espoir. Donc voilà un peu mon parcours.
Entraîneur depuis combien de temps maintenant ?
4 ans.
4 ans. Et tu coachais donc l'année dernière la montée et l'accession ?
Non, j'ai pris cette année, je coachais les minimes France l'année dernière et les minimes régions il y a 2 ans en garçon.
Parcours quasiment sans faute la saison passée pour Netreville ?
Quasiment, avec une défaite sur toute la saison, vainqueur de la Coupe de l'Heure et montée en National 3.
Alors ça, bon, on va refaire l'historique quand même, on avait quitté le club il y a quelques saisons avec... Avec un peu des bobos créés par la municipalité. Mmh. Ça s'est reconstruit sur quelle base de joueuses et comment s'est préparé cette saison pour retrouver le niveau national ?
Au départ, quand on s'est reconstruit, on est reparti avec que des jeunes de quartier, du quartier de Netreville et un peu de la Madeleine. Et petit à petit, on a fait championnat de France, on continue à faire championnat de France. Et maintenant, aujourd'hui, on a 5 filles qui jouent en National 3, qui étaient en championnat de France chez nous il y a 4-5 ans.
Donc... belle progression, et je crois que bon, à l'époque, quand la municipalité avait tapé un peu du doigt, c'était parce qu'il n'y avait plus personne d'Evreux. Mmh. Bon, voilà, le niveau est certes un peu moins élevé pour l'instant, mais au moins il y a des joueuses ici de la formation locale. Ça tombe bien, on va enchaîner avec Fabrice. Vas-y, explique-nous d'où tu arrives et puis on reviendra un peu plus en largeur sur les choses.
Le CV détaillé.
Donc de Toulon, c'est le neveu de Boudjelal.
Ah non, c'est pas mon point.
C'est pour ça que mon ordinateur est coupé.
Donc voilà, moi j'ai commencé mon cursus entraîneur en 2002 à 2004 à Chalon-sur-Saône pour passer les différents diplômes, notamment le BE1, où j'avais le double projet de joueur et d'entraîneur, mais orienté rapidement vers l'entraîneur. Après 2004-2008, Orly en N3 filles. Après 2008-2009, entraîneur centre de formation à Reims et assistant ligue féminine, donc en première des filles. Après entraîneur ligue 2 féminine à Reims toujours, et arrivé ici donc à l'été 2010.
Alors
en excellence région, ton équipe monte en National 3.
Voilà, alors le projet était le premier entretien avec Elsa, la directrice de la section pro, c'était si tu viens ici, il faut avoir l'agrément du centre de formation. Pour avoir l'agrément du centre de formation, il faut bien sûr qu'il y ait des structures, une organisation autour de ça et des joueurs. Mais ça passait également par la montée de cette équipe réserve en National 3.
Au niveau national, oui.
Donc voilà, objectif atteint.
Alors on va compléter. Peut-être que cette obligation de centre de formation fait suite aussi à une réforme au niveau de la fédération avec la création d'un nombre de joueurs JFL, c'est ça ?
Oui, voilà. Il faut, dans chaque équipe de 10, si c'est une équipe de 10, on a droit qu'à 3 joueurs qui ne sont pas JFL. JFL, ce sont les joueurs formés localement, c'est-à-dire qu'entre la 12e et la 21e année, il faut qu'ils aient passé 4 ans sur une formation sur le territoire français. Donc voilà, ça veut dire qu'un Américain qui arrive à 15 ans et qui fait ses 4 ans est considéré comme joueur formé localement, donc français. Par contre, un Français, et c'est là qu'il peut y avoir polémique de temps en temps, c'est qu'un Français qui part très tôt à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour faire un cursus high school et derrière université, peut ne pas être considéré comme... ça, après, c'est par d'autres sens. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y ait 3 étrangers donc non formés localement par équipe et le joueur formé localement. D'où l'intérêt d'avoir un centre de formation.
En fait, la très bonne idée, c'est de refaire un centre de formation. Quoi. Bon, oui. Après, on peut parler de plein de choses, mais la très bonne idée, c'est de refaire bosser les jeunes à Évreux. C'est ce qu'il y a de mieux.
Ou je crois que
on se souvient des grandes années, des joueurs qui sont sortis, et puis depuis, malheureusement, ta génération, Damien, n'avait pas la chance après de pouvoir pousser au-delà de cadet sur un type de structure. J'imagine que tu le regrettes amèrement.
Un peu, ouais. Un peu parce que on avait une équipe qui pouvait, on pouvait faire.
Alors par contre, faut que tu causes dans le micro. Je suis au taquet sur les tranches, je peux pas mettre plus fort.
Ouais, surtout qu'on avait une belle génération 88. Avec maintenant Karim qui joue en pro et d'autres gars qui sont partis en National 1, National 2.
Et oui. Voilà. Donc, c'est un bienfait, le retour de la formation Évreux.
Mais complètement. D'ailleurs, c'était un élément fort, nous, dans notre reconstruction du centre de formation. C'est déjà par rapport à l'historique. Quand même, le premier joueur français à avoir joint NBA est sorti du centre de formation, Tariq Abdoulouad, donc anciennement Olivier Saint-Jean. Et un nombre de joueurs incalculable, Joseph Gomis. Là encore, l'année dernière, sur les 10 pros qui avaient un temps de jeu, on a 3 qui sont sortis du centre de formation. Donc, et ça, peu de clubs en pro A, pro B, voire N1, où il y a moins d'argent pour les pros, peuvent s'en vanter.
Voilà, alors on va continuer. Là, on a vu un peu d'où vous venez, ou l'histoire un peu de votre club, ou de quoi ils sont repartis pour se reconstruire sur ces équipes qui réintègrent le niveau national. Maintenant, c'est un peu quoi la composition de vos équipes, combien de joueurs, combien de joueuses.
5 au basket, ouais, c'est 5 sur le terrain.
5 sur le terrain.
Oh, moi j'ai fini des matchs à 4.
T'as les paniers de chaque côté et à l'entre-deux, tu dois sur le panier d'en face, d'accord.
Tu signales que j'ai fait quand même 3 matchs l'année dernière. Je le rappelle.
C'est dire la pauvreté du basket français quand même.
On est mal parti.
D'ailleurs, l'année dernière, on a créé une ligne rebond au sol. C'est là où j'étais le plus prolifique. Personne ne voulait de ces ballons au sol.
Une ligne de stats.
Voilà. Plus sérieusement, combien de joueurs encore qui étaient présents dans vos effectifs l'année dernière ? On se doute qu'il a fallu recruter parce que quand on monte d'un niveau, il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux. Plus large peut-être pour la LM parce qu'il y a ce centre de formation et l'obligation d'avoir une équipe. Netroville, il y aura peut-être moins la pression par rapport à ça. Ça va peut-être être du travail plus dans la continuité et encadrer ces jeunes joueuses qui ont réintégré les clubs.
Ça va saigner.
Allez, le café va être corsé comme on nous l'a dit la semaine dernière. On va commencer. Tout à l'heure, on a commencé par les filles. On va commencer par Fabrice qui hop, il dit bonjour à l'ami Raoul qui vient d'entrer dans les murs.
Il bosse jamais ce mec-là, quoi.
Putain, les entraînements en ligne de mer, c'est pas mal ça. Je vais faire ça comme sport. Allez, vas-y, Fabrice.
Donc, déjà, par rapport à l'effectif, effectivement, il y a eu quelques changements. On a essayé de garder un maximum de joueurs qui ont participé à l'aventure la saison passée. Nous, c'est un fonctionnement un peu particulier parce qu'on ne fonctionne pas comme une équipe classique de N3, c'est-à-dire voilà, équipe première, etc. Nous, ça reste une équipe avec deux statuts différents qui sont. Les joueurs formés, enfin les joueurs locaux, donc un cursus un peu comme Damien, qui ont commencé Benjamin Minim à l'ALM et qui sont encore chez nous en ce moment. Et puis les joueurs centres de formation qui, eux, ont été recrutés, qui sont des jeunes joueurs, moins de 20 ans, qui n'ont que pour objectif d'être basketteur pro à un moment donné, et dont la N3 est juste un outil d'évaluation par rapport à leur progression. Donc voilà, et c'est qu'une marche pour eux.
J'ai une question d'ailleurs sur la N3. Est-ce que la N3, c'est pas plus intéressant, j'oriente encore la question, mais pas plus intéressant que de jouer contre des centres de formation ? C'est-à-dire de se brasser avec des vieux, avec des vicieux ?
Mais alors le truc, c'est que là, c'est exactement la différence qu'il y a entre un centre de formation Pro A et un centre de formation Pro B. C'est-à-dire, centre de formation Pro A, ils ont leur championnat espoir à eux, qui jouent en levier de rideau, des pros, et nous, on est reversé dans un championnat amateur, on va dire. C'est différent. Alors, parce que le championnat espoir va plus vite, va plus haut, parce qu'en termes de qualité athlétique, voilà. Mais c'est vrai.
Il est bloqué, il n'y a pas de descente.
Voilà, il n'y a pas de descente, il y a juste le trophée du futur. Voilà,
t'as pas d'obligation d'en
voilà, c'est tout. Maintenant, nous, le championnat E3, effectivement, il y a la pression du résultat, notamment de ne pas descendre. Après, c'est vrai que par les joueurs qui composent, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en N1, Pro B, donc qui amènent du vice, qui amènent de la dureté. Voilà, il faut être à un moment donné, ça fait partie de la formation du joueur, que d'acquérir ces éléments-là.
Est-ce que ce serait pas au final plus basket ?
Culture basket.
Plus basket dans l'intelligence, dans la gestion des matchs, dans tout ça. Est-ce qu'on, sur des postes, on va prendre un poste de meneur, qui est quand même des postes à responsabilité, est-ce que justement d'avoir à gérer des matchs.
Ou d'intérieur.
Ou des postes d'intérieur qui sont des. Pour moi, les intérieurs, c'est les piliers au rugby, quoi. C'est des postes à maturation tardive. Le fait de se confronter. À du vicieux, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est que, enfin, c'est les deux postes clés, intérieur et meneur, parce que c'est là où s'appuie finalement l'équipe. Effectivement, c'est un très très bon outil de travail.
Donc toi, ta préférence ?
Moi, préférence.
Championnat espoir fermé ou championnat fédéral avec des vieux roublards et tout ce qui s'ensuit ?
Je dirais le summum, ça serait National 2, parce que
jeu un peu plus clair.
Voilà, un jeu un peu fédéral. Beaucoup plus. Plus pro, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup plus de basket. Parce qu'en National 3, il y en a qui sont presque trop dans le vice par rapport aux qualités basket. Que National 2 est beaucoup plus basket, beaucoup plus athlétique et quasi pro.
Donc, ouais, comme en Fédéral 3 au rugby, il paraît qu'il y a des vieux salopards sur un pré.
On est début septembre. Fabrice Lefrançois nous annonce donc la montée de l'ALM en National 2.
Bien sûr que non.
Pour toi, Damien, tu te retrouves quasiment dans la configuration d'avoir un centre de formation. Enfin, tu as une équipe hyper jeune pour affronter cette N3. Ça va pas être simple pour toi également.
Ouais, c'est un peu ça, sans l'agrément. mais ouais, c'est beaucoup de jeunes. C'est la formation qu'on a effectuée maintenant qu'on peut mettre en valeur. Contre vraiment au niveau N3, vraiment un bon niveau. Mais je rebondis un peu sur ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure.
C'est le basket, rebondis.
C'est ça. Et nous, quand on était en cadet, on jouait N3 et on faisait les deux, cadet France, première division et N3. Et je pense qu'on a plus appris en jouant en N3 qu'en cadet. Après, c'est mon avis.
Bon, on va clore cette première partie. En disant bonjour à Raoul.
Ouais, salut.
Officiellement. Et peut-être est-ce que tu as une question pour l'un et l'autre ou l'un ou l'autre ?
Tout de suite, comme ça, à chaud.
Ouais, à chaud, ouais.
Je vais m'occuper de Damien alors.
Allez.
Quand tu viens juste d'enlever tes couches et que tu es amené à manager une équipe senior dans un championnat fédéral, c'est comment ? Rappelle-nous l'écart d'âge qui existe entre ton âge à toi et la moyenne d'âge de ton équipe.
La moyenne d'âge, elle est à 25-26 ans et j'ai 23 ans, donc 2-3 ans. Mais c'est vrai que j'appréhendais de prendre l'équipe, sachant que je connais bien les filles Et je vais coacher ma sœur, ce qui est un peu...
Enfin, tu vas pouvoir lui mettre la misère, enfin.
Donc ouais, c'est... j'ai appréhendé, mais là, sur les premières semaines, je prends beaucoup de plaisir.
Mais t'inquiète, hein. Ça dure pas, ça.
Je sais, on
attends, verra. Attends de perdre un ou deux matchs, tu vas voir, elles vont enlever le masque.
On a déjà perdu deux.
Mais ça compte pas, c'est les matchs amicaux.
Les matchs,
amicaux.
Ouais, rien, les matchs préparatoires.
Bon, tu reliras ou tu réécouteras la chronique sur le podcast.
Dans deux mois.
On parlait de la gestion d'une équipe. Tant que c'est les matchs amicaux, ça se passe bien. Bah, les musiques.
Bah on est nu avec une chaussette, ça t'indique pas ce que c'est ?
Je suis pas assez éveillé pour ça aujourd'hui.
Red Hot Chili Peppers.
Allez, petit jingle et puis on les fera réagir dessus un petit peu.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match ?
Ouais, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler de technico-tactique, on va aller les troncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire, comme on dit.
Ça, c'est pour France-Grèce.
Voilà. Ça devrait jouer à peu de choses près comme ça sous la raquette. Déjà, avant de parler de France-Grèce, on va peut-être revenir sur ce match contre l'Espagne.
Sur la semaine.
Bah, sur la semaine.
Sur la semaine, peut-être. Ouais,
qu'est-ce que vous avez pensé de l'Euro ? Allez, on va commencer là-dessus.
Ouais. Allez, Damien, je t'en prie.
Bon, on a fait un parcours quasi parfait pour l'instant, à part le match contre l'Espagne, mais bon. Pour moi, c'est une bonne chose. On est perdu.
Pourquoi ?
Pour éviter la Lituanie et l'Espagne jusqu'en finale.
Tu préfères choper la Russie en demi ?
Oui, franchement, ouais. Parce que l'Espagne, ça va être injouable. Et la Lituanie chez eux, ça va être très, très, très chaud.
Sergi Baka, on rappelle, JFL.
Ah non.
Non, il aurait pu.
Donc,
le centre de formation des vieux d'Evreux, Prissé.
Et qu'est-ce toi, Fabrice, qu'est-ce que tu as pensé du parcours ?
Bah non, mais un peu comme Damien, c'est-à-dire qu'on sent un jeu un peu plus abouti par les Français que sur les compétitions internationales précédentes, notamment avec l'apport de Noah qui est très important défensivement et dans l'énergie et dans le fait de pas baisser la tête quand ça va pas, etc.
Son petit frère Kevin est pas mal non plus. Kevin Serafin. En termes d'énergie et de kilos dans la raquette.
Ouais, alors au terme de kilos, on est d'accord. Après, ouais, il est encore jeune, etc.
Donc, moi, je le recrute quand il veut pour jouer deuxième ligne. Hein.
Ça m'étonne pas, ça.
Il y a eu Thion qui a bien réussi sa reconversion, si ça marche pas au basket.
Donc voilà, mais pareil que Damien, moi, quand on faisait déjà les calculs, parce qu'on a regardé le match ensemble, hein, le dernier, on savait qu'il fallait absolument perdre contre l'Espagne pour avoir un parcours, sachant que c'est quand même il y a une sorte de pression par rapport aux qualificatifs aux Jeux Olympiques. Donc c'est ça, c'est pas éviter l'Espagne ou l'Italie dans la compétition, c'est
plus tard.
Voilà, plus tard.
Alors, oui. Damien demandait le mode de qualif pour les JO. Donc de mémoire, le champion d'Europe,
les finalistes
et le finaliste, et ouais, les quatre autres sont en tournoi de qualif.
Voilà, c'est ça. En pré-olympique.
Voilà. La méthode vous a pas déplu, c'est-à-dire que les remplaçants soient un peu chiés dessus en deuxième, pardon, et mal joué en seconde période. Moi j'ai trouvé qu'ils ont baissé le dos, quoi. Enfin, ils ont courbé les chines quand même. Alors meneur, bon, Albici le pauvre il était dans le mur.
Attends, tu poses la question, on donne pas la réponse.
C'est vrai.
Non mais on a toujours eu, nous les Français, on a toujours été la bonne poire de ça. Il y a deux ans à l'Euro, on s'est dit ah non on perd pas, etc. contre les Grecs, on avait gagné. Sur un panier au buzzer de Decolo, alors qu'ils avaient gentiment laissé mettre ce dernier tir pour éviter l'Espagne en quart de finale. Et donc du coup on s'est tapé l'Espagne en quart de finale, on s'était fait sortir alors qu'eux avaient continué leur aventure.
Et donc, on fait cinquième en ayant perdu un seul match, voilà. Le meilleur ratio du championnat.
Voilà, c'est ça.
C'est bizarre mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça la semaine passée déjà.
C'était le discours,
parce c'était le débat, on voyait le
scénario,
débat.
On voyait le scénario arriver. On se disait, bah voilà, les choses sont bien lancées, l'équipe est solide, à un moment donné, il va falloir choisir. Et on mettait en avant les craintes qu'on avait par rapport à la surutilisation de certains joueurs. Bah, problème réglé sur ce... Là, je crois que Parker, ça lui fait quoi ? 5 jours de repos complet ?
Oui, voilà, ouais, c'est ça.
C'est énorme, dans une compète internationale. Donc voilà, Noah apparemment avait aussi un petit bobo en plus de vouloir être économisé. On parle pas de Jelabal, lui, qui était médicalement inapte. Mais voilà, c'est parfait à ce niveau-là. Moi, je trouve que du point de vue du coaching, c'est... Il n'y a vraiment rien à redire de la gestion.
Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching là, en termes de jeu de Collet depuis le début de la compète?
Ouais, je laisse Damien.
Pourquoi c'est lui?
Oh là, c'est ton pharmacien, mon colère.
Vu on parlait de résultats tout à l'heure, on est jugé sur les résultats. Vu les résultats, il n'y a rien à dire. On voit bien trois joueurs qui se détachent avec Parker, Noah et même Batum qui fait de sacrés matchs. Plus. Un peu le chouchou de Fabrice, Djellabal, qui est très important sur les tirs, sur les fins de match contre la
Serbie.
Mais là, tu nous parles de qualité individuelle intrinsèque. Ouais. Là. On te parle de la façon dont on te parle de ce que propose Collet en termes d'organisation collective,
d'adaptation, de rotation,
parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire depuis le début. Mmh. On n'est pas dans du manager à fermer avec un 5 et...
presque tous les joueurs jouent tout le temps. Donc il fait les rotations, sauf sur les gros matchs où Parker, on voit Parker a joué beaucoup sur les trois premiers matchs. Avec une moyenne de. Il joue 30, 37, 38 minutes. Mais sinon, sur le coaching de Collet, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le turnover, il n'y a pas grand chose à dire.
Et toi, Fabrice ?
La difficulté, c'est que l'équipe de France, toujours. Beaucoup de mal à attaquer la défense de zone et que pour l'instant une seule fois on a été en difficulté là-dessus, c'est contre la Turquie quand ils ont fait un retour qui nous a quand même mis en difficulté et c'est peut-être là que Vincent Collet va devoir apporter une touche. On sait que sur les matchs élimination directe comme ce qui va se passer là, le coaching va être très important, c'est-à-dire un retard d'une minute sur un changement, sur un temps mort, etc. ça peut tout changer. Après, par rapport au changement de joueur, je pense que la hiérarchie est quand même en place, qu'il a fallu tirer sur le 5 majeur parce que le banc est quand même un niveau en dessous, mais que c'est à mon sens assez normal et que effectivement le hasard du calendrier, on va dire, de cette compétition là fait que contre l'Espagne on a pu reposer ces cadres là pour enchaîner sur les matchs d'élimination directe. Sachant que moi, j'ai mis une réserve par rapport à ça, c'est par rapport à la gestion du rythme. C'est-à-dire que des équipes peuvent rentrer largement mieux dans un match quand ils ont joué voilà, peu de
quand
temps avant.
La régularité.
Ils sont sur une dynamique encore, sur un rythme, enfin, ce qu'on appelle au basket un rythme. Et donc le fait d'avoir été longtemps en repos, bah, va falloir relancer la machine. Et donc ça, ça peut être par contre un bémol et on aura la réponse assez rapidement contre les Grecs.
Raoul, vas-y.
Ouais, tu parlais d'utilisation du 5 majeur, d'une hiérarchie bien définie. Moi, là où je trouve qu'il a été remarquable, c'est dans la hiérarchie de ses remplaçants. Parce que, en effet, t'as tout ce 5 qui est incontestable, mais derrière, ces hommes de mission, il les a utilisés à bon escient, je trouve.
Ça vous emmerde de parler dans les micros?
Voilà.
Je suis au bout, là.
L'impact de Charles Cahudi, par exemple, l'avant-dernier match de poule, est énorme et il est tout à fait approprié de l'utiliser dans ce match-là. Sur ces deux pivots remplaçants, Traoré et Séraphin, ils n'utilisent pas en fonction des adversaires.
Oui, voilà.
Donc ça, j'ai trouvé ça super. Après, comme tu disais, le bémol sur la zone, c'était effrayant ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils nous font, c'est quoi, c'est une 1-3-1 qu'ils font ou...
Une 2-1-2.
Une 2-1-2.
Une 2-1-2 match-up.
Voilà. Qui nous ont déjà collé dans la tête il y a 2 ans quand c'était Tangevic qui entraînait, qui nous avait déjà fait prendre le bouillon. Donc je suppose qu'on a un peu de mémoire quand même, qu'on a travaillé des choses, j'espère. Et on joue 9 attaques avec le même schéma, avec la même finition improductive, sur un tir à 3 points décalé à 45 et basta. Et ça, ça me fait un petit peu peur. Alors est-ce que c'est fortuit, que les mecs ont pété les plombs, est-ce qu'au contraire on n'a rien en magasin?
Non, mais
parce qu'on va en remanger.
Moi je pense que, j'en ai parlé avec Fabrice l'autre jour, c'est qu'un joueur comme De Colo, c'est un joueur qui est sur la zone, qui fixe bien, qui sert bien les intérieurs. Donc ça peut être une alternative avec les shoots.
Ou bien qu'il serve à quelque chose.
On est d'accord.
Oula.
Mais donc ça tombe mal parce que la seule
moi,
zone
je trouve qu'il
prend
passe
dans
pas
la gueule, il met rien dedans.
Il passe pas la rampe.
Ouais. Ouais, non, mais après le match qu'il fait contre la Lituanie, voilà, après j'espère que ça va le lancer.
Alors,
pour
je vais citer un barbu qui est pas très loin de moi. Il va dire c'est bien, il aura fait un match dans l'Euro.
Ouais, moi je pense peut-être on va voir plus tard contre les Grecs.
Ce match aura servi, mais je trouve qu'il a du mal à passer la rampe quoi.
Oui.
Sur 2 ans, il stagne un peu.
Enfin, mais moi, je parlais sur l'attaque de zone pour
prendre des intervalles, voilà, c'est donné, prendre un shoot extérieur de temps en temps.
Pour moi, il y a Parker qui le fait aussi, mais dans les remplaçants qu'on parlait, lui, il fait très bien ça.
Voilà, mais il faut comprendre quand même que cette équipe-là n'est pas une équipe européenne classique. C'est-à-dire que dans le style de jeu, dans les joueurs qui la composent, ce sont des joueurs athlétiques, des joueurs NBA. Qu'en NBA, il n'y a quasiment pas de défense de zone ou
de défense tout court.
Pas les mêmes, voilà, voire de défense tout court. Donc voilà, il y a un temps d'adaptation qui est autre. Après, effectivement, est-ce que Collet peut mettre en place des situations plus fermées, c'est-à-dire où vraiment les gens sont dirigés, style robot pour trouver des failles. Bien sûr, voilà, mais encore, je pense que l'attaque de zone est en amélioration. Est-ce que ça suffira pour être bon sur l'attaque de zone? On verra.
Alors voilà, on a parlé un peu des déboires ou des ébûches qu'allait avoir.
Zébûches le Canadien au Canada des ébûches.
Mais oui, parce que c'est le futur adversaire. Non, pour parler.
Comment il retombe sur ses pattes, le chat.
Carrément. Et. Félin, je suis en panda. Non, est-ce que vous voyez la France au bout? Allez, on va se mouiller. Ah, on s'est mouillé la semaine dernière avec le.
Allez, du côté de Netroville, on dit quoi du côté de Netroville?
Moi, j'y crois.
C'est-à-dire au bout, finale ou vainqueur?
Finale.
Espagne devant?
Espagne devant.
Putain, t'es un pouli d'or, toi. Ça sert à quoi d'aller en finale? Ah si, d'être qualifié au JO.
Fabrice Lefrançois, l'ALM. L'ALM, c'est pas pareil que Netroville.
Non, ils font pas dans le loisir.
On est dans la compète, nous.
Je donne le micro à Lemienski pour répondre.
Fabrice, tu vois quoi, toi?
Ouais, finale. Finale défaite contre l'Espagne.
Putain, il y a comme un consensus dans le basket hébroïcien, c'est beau, c'est jamais
plus,
arrivé.
C'est plus
ça.
Que c'était.
Ah ouais, putain.
La solidarité.
Ah, le poids des derbies, ça manque.
Final, c'est pas simple encore d'y aller. Hein.
Non, c'est pas simple, mais on a le tableau le plus ouvert.
Ouais,
donc voilà. Russie après, certainement.
On verra. Mais
toi, tu comptes sur
la Serbie.
Tu comptes sur un bon déballonnage russe à l'ancienne, un petit coup de vodka la veille et.
Ah non,
parce qu'ils sont énormes en ce moment.
Je fais partie de ceux qui aiment voir les gens gagner parce qu'ils sont plus forts et pas moins faibles. Donc voilà.
Non mais ils sont effrayants ces Russes.
On pourrait peut-être fermer le café d'espoir là-dessus.
Ouais,
stop, salut.
Celle-là, on la met en générique. On la met en virgule.
On refait pas d'émission pendant un mois parce que pour une fois qu'il y a eu quelque chose d'intelligent de dit.
Raoul, ton podium, toi?
Mon podium? Espagne, France.
Et après
Lituanie, parce qu'il faut quand même pas qu'ils repartent à poil.
On valide.
On valide.
Et toi? Parce que c'est bien beau de faire voter les autres, mais faut se mouiller. Non, mais de toute façon, il va
sauf,
dire l'Espagne.
Sauf si on apprend à bastonner dans les 5 jours qui viennent. Dans ce cas, on peut peut-être niquer les Gonzalo et compagnie.
tous ces. Il croit que l'Espagne est un peu sous cette année encore. Non, ouais, Espagne, ouais.
Toi, tu vois pas la France en
fait. Tu vois pour...
Si je jouais la France. Non. J'ai joué qu'on va trébucher en demi, moi.
Contre les Ruskov.
Ouais.
C'est bizarre, hein.
Déjà, faut passer les Grecs déjà.
Ouais. Et ben, je crois que.
Non, c'est fini.
Janakis, c'est pas là.
On a perdu 99 fois sur 100. On va gagner la centième. C'est mathématique.
Allez, je crois qu'on a fait le tour pour 7 euros.
L'agenda.
On va juste donner rapidement. On va prendre le temps de faire le tour des popotes. Qui joue à la maison? Qui joue en déplacement ce week-end? C'est l'ouverture, c'est ça?
Ouais, nous, on reçoit Calais, 15h30 à Jean-Bart, à Netreville.
Et c'est gratuit?
C'est gratuit.
Dimanche. Et nous, on joue à domicile également, samedi 20h à la salle Omnisport, et c'est gratuit.
Aussi.
Et L'LM, contre qui?
L'LM gratuit.
L'LM gratuit.
Contre qui?
Vas-y, Damien.
J'ai dit contre Calais.
Calais.
D'accord, nous, c'est contre Lisieux.
D'accord. Y a-t-il.
Le rugby Vadreux, c'est ça?
Ouais, le rugby chez nos meilleurs amis, les Drouets.
Les pénibles.
Pour une bonne bagarre générale à l'ancienne, voilà.
Pour lancer la saison.
Et puis après, un petit barbecue, 2-3 bières, et puis ça sera bien, on aura bien travaillé.
Quand tu dis on, c'est inclusif?
Ça pourrait être inclusif à voir.
Oulala.
Ouais, ah, je me mouille, hein.
Il va être marqué la semaine prochaine, il va être marqué.
Je crois que c'est tout.
C'est pas si mal.
Est-ce que, Gonzalo, tu sais si du côté de l'EVB ça joue?
Ça part 3 jours
ils vont boire
en
des
Bretagne.
Bières en
ah non, en Bretagne, ils vont boire de la bière de Ouessant aux algues. 3 jours. Ouais, c'est quoi? Suisse, Quimper et je sais plus la troisième.
Van.
Et puis voilà, il y aura peut-être du foot avec le FC, mais c'est moins. mais c'est moins grave que l'année dernière.
On s'en fout.
Mais c'est moins grave que l'année dernière.
Et logiquement, le SMV devrait jouer à l'extérieur.
Voilà. Et ben, c'était le Café des Sports. Bonne saison à vous, messieurs.
Merci.
On vous retrouve pour le maintien en fin de saison.
On se retrouve dans l'année.
Avec plaisir.
Au revoir, Damien. Au revoir, Fabrice.
Au revoir.
Salut, Raoul.
Salut, patron.
Merci d'être venu quand même. Et puis, merci, Gonzalo.
À toi. Merci.
Allez.
À toi.
Ciao.
Et Damienski, et puis du bec.
Ah, il a plus de micro. Au revoir, Damienski. Au revoir. Vous pouvez le retrouver vendredi matin. Demain, il n'y a pas de matin. Ah, si, demain, il y a matinale, on est mercredi. Allez, ciao, vous êtes bien.
Tu le lances en générique, s'il te plaît.
C'est parti ! Essai de Christian Dominici, c'est un génie !
Essai ! Pas vrai ! Deux fois, ça, c'est pas vrai !
Chut ! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but !
Et troisième but !
D'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Oh là là, chute de Belotti juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Sheppard est parti. L'Express, le TGV est parti. Sheppard, 9-58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.